9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS à votre santé, bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver avec le docteur Delabo. Bonjour docteur Delabo.
Bonjour Philippe, comment vas-tu mon ami?
Ah, c'est à vous qu'il faut demander ça alors, vous vous êtes cassé la marboulette.
Je me suis surtout cassé deux côtelettes.
Deux côtelettes? Deux petites côtelettes. Qu'est-ce qui s'est passé docteur Delabo?
Oh bah c'est très marrant, j'ai raté mon lit.
Vous avez raté votre lit? Ah oui, c'est embêtant.
J'ai cru que je me couchais sur mon lit et je me suis donc laissé tomber sur mon plumard et je me suis laissé tomber sur ma table de nuit.
Ah oui.
Sur le coin de ma table de nuit, sur l'angle de ma table de nuit. Oui, ça fait très très mal. Ça m'amuse parce que Zora qui fait oui, j'ai pas fait ouah, j'ai poussé un hurlement. Alors Guylaine a eu vachement peur, la pauvre, elle s'est affolée. Et puis,
Guylaine, c'est votre femme. Hein,
oui, c'est ma chérie.
Gens, parce que...
Tout le monde sait qui est Guylaine, voyons.
Pas tout le monde. Enfin, les auditeurs, c'est tout. On a d'énormes des auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, docteur Delabo. Hein.
Ah bon?
Même si votre réputation a fait le tour de.
Ah oui, quand même.
Ah ouais, il y en a. Ouais, ouais.
Ah bon, il y en a parmi vous qui ne me connaissaient pas. Alors bonjour les petits nouveaux,
bien.
Les petites nouvelles.
En tout cas, vous allez mieux.
Oui, seulement la semaine dernière, j'ai été interdit de train parce que c'est vrai. Elle a eu raison parce que même hier, ça me faisait pas tellement de bien. Je suis très ennuyé, Philippe. Je cherche ma semaine.
Mais j'essaie. Et vous avez vu que je.
Non, mais je la retrouve pas. C'est ça l'ennui. La voilà.
Bien.
Je l'ai.
Sinon, on commence sur autre chose, hein, docteur Delabo. J'ai d'autres sujets à vous proposer.
Mais non. Alors, je vais te la lire.
Ah hein. Bah allez-y, tiens.
Alors lundi, le bracelet magnétique, un accessoire étonnant. Point d'interrogation, bien sûr. En fait, c'est une belle arnaque sur le plan santé, car ça ne sert strictement à rien. Tout comme les bagues soi-disant miraculeuses, accompagnées d'un baratin fabuleux, pour vous les prendre à des prix tout aussi fabuleux que les fabulations destinées à vous les faire acheter. Pour les mettre sur les doigts, y compris les doigts de pied. Et maintenant, même dans la cloison nasale, comme on le fait depuis des siècles, pour les bœufs qu'on mène à l'abattoir. Je trouve ça, les gens qui se foutent un anneau dans le pif, je trouve ça... regrettable.
Oui, mais enfin, chacun fait ce qu'il veut, après tout. C'est
chacun fait ce qu'il veut, chacun peut avoir l'air idiot, ouais. Chacun peut ressembler à n'importe quoi. Mardi, porter une culotte pour dormir.
Ah, ça peut être intéressant, ça.
Ben, j'ai constaté avec surprise que cette très, très mauvaise habitude est extrêmement fréquente.
C'est-à-dire
c'est très mauvais de dormir avec une culotte. Il ne faut jamais dormir avec une culotte. On peut dormir avec un vêtement flou. Moi, je dors avec un t-shirt long. Mais il faut laisser le milieu du corps libre, tranquille, et pas le serroter dans du tissu la nuit. C'est très, très, très mauvais pour la santé. Vous étonnez pas, mes petites dames, si vous avez sans arrêt des gratouilles. Ça, c'est très fréquent. Et si la culotte est trop serrée, en plus, c'est pire. Et si c'est la culotte que vous portez depuis le matin, c'est encore pire. Donc, si vraiment vous voulez porter une culotte, un, il faut qu'elle soit ample. Deux, il faut qu'elle soit propre, c'est-à-dire il faut que vous l'ayez sortie du placard
pour la
avant
nuit.
D'aller vous coucher.
Voilà, ouais.
Et vous la balancez le lendemain, vous la mettez dans le panier sale. Parce qu'une culotte, ça ne peut durer qu'une journée ou une nuit, mais pas les deux. C'est dangereux pour votre santé, ça donne énormément de mycoses, ça donne énormément de gratouilles et ça peut donner des infections. Donc... mettez donc des pyjamas l'hiver si vous voulez, quand il fait froid, des pyjamas bien amples, et puis rien du tout en dehors de ces périodes de froidure hivernale. Mettez-vous les fesses à l'air pour être. Et vous dormirez très très bien.
Oui, vous êtes prêt au froid au dos.
Non, tu mets un t-shirt court,
oui.
Bien sûr. Mais un t-shirt ample, surtout ne mettez pas des vêtements serrés pour dormir, c'est très mauvais.
Bien. Mercredi.
Alors, si vous voulez vraiment une culotte, que vous soyez un garçon, une fille ou une dame ou un monsieur, les remettez pas celles que vous avez portées dans la journée, mais sortez-les du placard pour en prendre une nouvelle. Mercredi, une tisane de sauge. Oui, ça, j'ai bien rigolé quand j'ai vu ça. Une tisane de sauge contre la chute des cheveux. Bon, une perte de cheveux liée à des émotions ou un traitement chimique peut être temporaire et guérira, je vous le signale, sans aucun traitement. C'est pour la peine d'aller vous coller des crottes de pigeon sur le crâne. Pas plus que de la tisane de sauge, de la tisane de thym, d'oseille, de persil, de guanara, etc. Tout ce que vous voulez. Je dis n'importe quoi, hein, c'est exprès. Ne vous laissez donc pas tenter par quelques tisanes ou poudres de perlimpinpin que ce soit. La chute de vos cheveux est définitive si elle est liée à des facteurs génétiques. Et la seule solution sera, si vous le voulez, de porter une moumoute. Nom argotique, du reste assez marrant, de la perruque.
Ou faire des implants.
Oui. Tu connais le prix des implants?
Oui.
Et puis faire des implants, je vais te dire, moi j'ai plus un cheveu sur le haut du crâne, et on m'a proposé de me faire d'implants en m'enlevant des cheveux derrière, j'ai vu ce que ça donne esthétiquement, c'est dégueulasse, c'est affreux.
Il y a un petit aspect frisé,
Non, c'est un aspect merdique, oui. Non, ce que j'ai fait, oui. En fait, je me suis rasé un peu le ventre où j'avais apparemment pas de poils. Il m'est poussé des poils que je vais me mettre sur la tête. Alors, et ça va aller très bien.
Ah, ça va être très très joli, docteur Dabo.
Bah, je vais avoir des cheveux noirs, c'est marrant, parce que j'ai les poils noirs.
D'accord. Bah, écoutez, vous nous enverrez donc une photo, hein.
Bah, vous me verrez sur les podcasts, sur les trucs et les machins. Vous verrez le doc avec des cheveux de gamin.
Vaut mieux s'accepter comme on est. Il n'y a rien de pire que finalement...
Non, mais je rigole, je m'en fous.
Je vous imagine avec une toison sur la tête. Allez, alors...
Ah ben, j'avais beaucoup de cheveux, mais ils sont très fins. Faire du sport... faire du sport fait prendre du poids. Bon, je n'ai pas pu m'empêcher de rire en lisant cette annonce soi-disant novatrice. Bien sûr qu'on peut prendre du poids en faisant du sport, mais ça dépend lequel. Et surtout, ça n'empêchera pas d'avoir une belle silhouette, sauf dans le cas de certains sports, comme le poisé halter, le lancer du marteau, où évidemment la silhouette perd toute esthétique au fur et à mesure que le sportif gagne en efficacité et en médaille. Mais à l'inverse, faire du sport peut également faire mincir, voire même faire maigrir si on exagère, comme c'est le cas pour certains coureurs de marathon. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne doit surtout pas faire du sport pour maigrir. Ça, c'est complètement idiot, car le sport doit servir à être en bonne santé et en bonne forme et apporter à l'organisme une masse musculaire utile. Ce qui signifie que faire du bodybuilding est complètement idiot, celui-ci n'ayant rien à voir avec une saine dépense d'énergie, les plus belles silhouettes étant celles des athlètes, plus particulièrement des coureurs de vitesse. J'ai été coureur de vitesse.
Oui, c'est vrai, c'est bien de nous le dire, docteur Delabo.
Bah oui, ça fait plaisir, je me fais plaisir là.
Mais vous courez toujours, hein, d'ailleurs.
Ouais, exact.
Mais vous ne deviez pas préparer une course ?
Oui.
Et ?
Bah, je prépare.
Ah,
je
vous la préparez ?
Je ne sais pas quand c'est, je ne sais pas où c'est. Il faudrait que tu regardes sur
Internet. D'accord. Vous préparez une course dont vous ne savez pas où elle est et quand c'est ?
Non.
Ah oui.
Parce que c'est le 100 mètres, c'est les championnats du monde 100 mètres master. C'est dans le monde entier, ça change de pays tous les ans. J'ai pas eu de peau, c'était à Lyon il y a 4 ans. Si j'avais su, j'aurais fait à Lyon, ça aurait été plus pratique.
C'était moins cher, ouais.
Oui, mais c'est pas grave, je vais me le faire offrir, je vais me faire sponsoriser, voyons. Vendredi, 9 pains à éviter absolument. Quand on lit de quoi sont faits ces 9 pains, on comprend qu'en effet, ils peuvent être redoutables pour le poids. Mais ce qui est idiot dans l'article, c'est qu'on les qualifie de trop caloriques. Mais qu'est-ce que c'est que cette manie de vouloir absolument manger léger pour s'alléger et surtout de vous parler de trop caloriques comme si nous devions nous soumettre en permanence à un régime restrictif. Ce qui est stupide, car nous avons besoin d'énergie en bonne quantité chaque jour. Si ces 9 pains sont à éviter absolument, en plus, c'est parce qu'ils contiennent tous, sans exception, du lait et ou du sucre, et en même temps que des matières grasses, ce qui les rend en effet dangereux sur le plan de la santé. Et qu'on arrête par pitié de nous bassiner avec des kilos.
Bien, et on termine avec samedi, votre semaine.
Et on complète la série de conneries avec les samedi, l'erreur qui vous empêche de maigrir. Mais pourquoi donc voulez-vous absolument maigrir ? C'est décidément encore plus stupide. Retenez tout simplement, avant qu'on en termine, que vous ne devez... Ni vous priver, ni maigrir, et même manger correctement pour être à la fois en bonne santé, en pleine forme, au singulier bien sûr.
Bien, docteur Delabo, vous savez qu'il y a une vieille expression française qui dit « ne te fatigue pas les méninges ». Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la méningite. Alors je voulais qu'on en parle ce matin, parce qu'il y a énormément d'articles dans la presse aujourd'hui qui disent que finalement les Français ne savent pas ce que c'est que la méningite. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre la méningite et les méninges ?
Bah oui, la méningite, c'est l'inflammation des méninges.
Et les méninges, ça sert à quoi ?
Ce sont les enveloppes qui protègent le cerveau. Les méninges, c'est toutes les enveloppes, si tu veux. C'est un petit peu comme ce qui protège le ventre. C'est comme les aponévroses. C'est une aponévrose, les méninges, qui va protéger un organe. Il y en a partout. Il y en a dans tous les muscles. Il y a des muscles. Il y a des aponévroses autour des muscles. Il y a des aponévroses. C'est le sac dans lequel sont contenus les organes. Donc, c'est une aponévrose extrêmement efficace. L'ennui, c'est que quand elle a une inflammation, c'est hyper dangereux et c'est mortel.
Bon, alors,
la
méningite, déjà, comment est-ce que ça s'attrape ?
Bah, ça s'attrape comme on attrape une grippe, comme on attrape une angine, comme on attrape une bronchite, comme on attrape n'importe quelle infection. C'est une infection, malheureusement, redoutable. Et alors, ça peut être une infection virale ou on peut faire des méningites virales ou on peut faire des méningites microbiennes, tout aussi dangereuses les unes que les autres, sachant néanmoins que la méningite microbienne peut être soignée par des antibiotiques, la méningite virale, non.
D'accord. Est-ce
que le moyen, c'est de vacciner pour éviter d'en choper une.
Est-ce que c'est très contagieux ?
Oui, c'est relativement contagieux. mais ça n'est pas hyper contagieux.
Alors quels sont les symptômes? Parce que là, finalement, c'est là qu'on se voyait, qu'on se rend compte que les Français ne connaissent pas bien les symptômes d'une méningite.
Le diagnostic facile, le plus facile d'une méningite, c'est il y a une fièvre, on se demande ce qu'il y a, on vous dit qu'on a mal à la tête, mais ça, on peut avoir très mal à la tête avec une infection virale banale. Vous avez une grippe, vous avez mal partout, vous avez mal à la tête. La méningite, enfin les affections, toutes les affections, infections ou virales ou microbiennes qui touchent le milieu cérébral et le milieu encéphalique particulièrement, sont faciles à diagnostiquer. La personne étant allongée, on soulève les jambes. Mmh. Et pousse un cri. Et pousse un cri parce que ça lui fait un mal de chien. Mmh. C'est-à-dire qu'en tirant sur les jambes, on va tirer sur la colonne, on va réduire le volume du liquide céphalo-rachidien et on va donc créer une douleur abominable par justement l'extension des jambes. Il suffit de soulever les deux jambes doucement, il ne faut pas y aller comme une brute, puis ce n'est pas la peine de soulever haut, et quand ça fait aïe, on redescend en vitesse parce que c'est très 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 douloureux.
Alors comment est-ce que ça se soigne?
Bah, la méningite virale, malheureusement, il n'y a pas grand traitement. La méningite microbienne, il faut trouver quel est le microbe. On fait donc une ponction lombaire pour chercher un peu s'il y a du microbe qui se trimballe un peu partout. Et on met l'antibiotique adapté au microbe. Ça, c'est relativement simple. En ce qui concerne la méningite virale, je vois pas d'autre solution que de faire un vaccin, s'il en existe. Parce que je sais même pas, hein. Je suis un vieux médecin. Mais une méningite virale, c'est vraiment ce qu'il y a de plus emmerdant parce qu'il n'y a pas de traitement réel. On a essayé les gammaglobulines à une époque, je me souviens, j'en avais testé. C'est pas terrible. La chance que j'ai eue dans ma vie, c'est de ne voir. Je crois bien que j'ai jamais eu une méningite dans ma clientèle. Mmh. C'est fou.
Ah oui,
j'avais une clientèle gigantesque. Mais j'ai jamais vu
de
méningite.
En toutes ces années de pratique.
Non.
Pourquoi est-ce que les enfants sont plus exposés à la méningite?
Parce que leur voie respiratoire, leur cerveau est plus en communication, si tu veux. Les voies respiratoires sont plus fragiles, tout est plus fragile, tout est plus poreux. Des vieux trucs comme moi, ça commence à être un peu fibreux, un peu, ça a du mal à penser.
Ah oui, ça fibre, alors ça c'est juste...
Tandis que c'est...
ça fibre.
Oui, là vous ne me voyez pas, je suis en train de lui faire un doigt
ça
d'honneur.
Ça défibre même.
Oui, je fais deux doigts d'honneur même, un de chaque main, ça t'apprendra.
Mais pourquoi c'est plus contagieux donc pour les enfants et pourquoi est-ce qu'ils sont plus...
Parce qu'ils sont plus fragiles, ils ont moins de pouvoir immunitaire, mon ami, les pouvoirs immunitaires des enfants. Alors maintenant, c'est de plus en plus dangereux parce que comme les femmes allaitent de moins en moins, comme les laits sont de plus en plus artificiels, comme c'est plus du lait maternel, il y a plus de pouvoir immunitaire dans le lait du tout, si bien que les enfants sont au premier plan. C'est pour ça que maintenant, il faut vacciner à tout va, parce qu'on est de plus en plus en danger, et vos enfants sont de plus en plus en danger. Si vous ne les vaccinez pas, si ils ont été allaités par une mère qui elle-même a été immunisée, parce que vous n'êtes plus, mesdames, immunisées non plus, si bien que votre gamin, même si vous lui donnez du lait maternel, ne sera pas suffisamment immunisé. Donc, vous courez à la catastrophe. Et si un jour, votre bébé ou votre petit fait une méningite, vous aurez honte et vous pleurerez toutes les larmes de vos corps pour avoir oublié qu'il fallait absolument vacciner votre petit.
Alors, je vous ai demandé de parler de la méningite aujourd'hui, puisque vous savez que parmi les vaccins qui sont obligatoires pour aller à la Mecque en pèlerinage, vous avez le vaccin contre la fièvre jaune qui est obligatoire, et puis le vaccin contre les méningocoques A, C, Y et W 135, docteur Delabo, et que aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont des anti-vaccins et qui ne se font pas vacciner, alors qui arrivent à passer, puisqu'ils savent qu'il faut un tampon pour aller, mais qui ne se font pas vacciner. Et c'est vrai que la méningite, c'est quelque chose de redoutable, il faut être clair là-dessus.
Ce sont des dangers publics, et ils devraient avoir honte de faire ça, parce que qu'ils en meurent, ils seront punis pour ne pas avoir été intelligents, ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Ça, c'est la punition. Mais là où c'est extrêmement malsain et malhonnête, c'est qu'ils menacent la vie de tous les gens qui les entourent. À la Mecque, les gens sont tassés comme des sardines. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos, si vous n'êtes pas allé à la Mecque, regardez les photos,
c'est impressionnant. Beaucoup de nos auditeurs, ils sont même déjà allés, docteur Delabo.
Oui, mais pas tout le monde, parce que ça coûte assez cher et tout le monde ne peut pas y aller. Et puis c'est pas tout près. Mais il y a une foule d'une densité extraordinaire, vous êtes collés les uns aux autres. Donc, vous allez avoir un faisceau de contagion, mais énorme. Je vais vous faire une comparaison qui va vous paraître idiote, mais qui pourtant est tout à fait vraie. Dans un élevage de poulets ou dans un élevage de lapins, si un lapin ou un poulet attrape une maladie microbienne ou virale, tout le monde y passe. dans les 4 jours ou 5 jours qui suivent, tout le... C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont assurés que leurs assurances coûtent très cher, parce que, étant donné qu'il y a une population qui vit en serré, tassé l'une contre l'autre, si l'un tombe malade, tout le monde tombe malade. D'ailleurs, c'est ce que je dis toujours, on me dit, ah, oh, mais le poisson d'élevage, c'est pareil pour les poissons. Oh, le poisson d'élevage, patali, patala, j'ai écouté, c'est pas si, pas difficile. Il ne peut pas y avoir de microbe dans un poisson d'élevage, parce que s'il y a un microbe dans un poisson d'élevage, tout l'élevage est mort. Donc, croyez-moi, les éleveurs font très attention à ce que leurs poissons ne risquent pas. Et les éleveurs de lapins ou les éleveurs de volailles ou les éleveurs d'animaux en batterie, comme ça, ce qu'on appelle en batterie, c'est-à-dire qui sont tassés les uns contre les autres, eh bien, les précautions sont prises de façon hyper importante parce que c'est une catastrophe financière pour l'éleveur ou l'éleveuse si jamais il arrive quelque chose.
Bien. D'ailleurs, dans votre élevage de lapins, vous avez tous survécu.
Je vois pas le rapport, mais enfin...
Mon petit lapin. Bien, en tout cas, pensez-y à ce vaccin contre la méningite, là, si vous partez à la Mecque, hein, la en pèlerinage.
Voilà. Le méningocoque. Alors, c'est une infection microbienne, mais malheureusement, les antibiotiques ne marchent pas.
Faut expliquer aux gens, ça.
Ben oui.
Ouais, c'est ça.
Faut vacciner, parce que si vous vaccinez pas, le temps qu'on s'aperçoive que vous avez une méningite à méningocoque, eh ben... Vous êtes déjà plus de ce monde, mes enfants. Alors, ça va très,
c'est fulgurant. C'est foudroyant.
C'est fulgurant.
Ouais, fulgurant.
Foum. Donc,
vous pouvez me le refaire, le foum.
Foum.
Ah, vous le faites drôlement bien, docteur Delabo.
Ah, je fais très bien le foum.
Bon, docteur Delabo, on a quelques jours du Ramadan.
Ouais.
Vous avez adapté la méthode que vous avez inventée, qui s'appelle la chrononutrition, spécialement pour ce mois de Ramadan.
Ouais.
On va commencer à la détailler.
Ouais.
Déjà pour que les gens se préparent psychologiquement.
Ouais.
Allez, et vous pourrez poser vos questions, ouais, au docteur Delabo. Foum, 01 53
ouais.
48 3000.
Ouais.
01 53 48 3000.
Ouais, là je...
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Une avec le chapeau qu'on rigole.
Ah non, vous ne mettez pas votre chapeau, docteur Delabo. Donc, docteur Delabo, c'est bientôt le mois du Ramadan. Comment est-ce qu'on adapte la chrononutrition au mois de Ramadan? C'est ce qu'on va voir avec vous ce matin. Alors, vous recommandez à tout le monde de ne jamais manger de soupe pendant l'année, sauf pendant ce mois-là, pendant le mois du Ramadan. Pourquoi ?
Non, j'interdis la soupe toute l'année, mais elle est obligatoire pendant le Ramadan. Et il y a deux sortes de soupes pendant le Ramadan qu'il faut boire. Une soupe légère à la rupture du jeûne, après peu de temps après la rupture du jeûne, et une soupe épaisse avant la reprise du jeûne. Ça, c'est très, très important.
Et à quoi est-ce qu'elle va nous servir, cette soupe ?
À ne pas risquer de faire de déshydratation aiguë dans la journée, tout simplement. C'est ce qui va aider à faire une provision d'eau suffisante. Je dis d'ailleurs toujours, en riant à mes patients qui viennent me voir, en ce moment, j'en vois beaucoup qui préfèrent le Ramadan, et qui, oh, Doc, je pourrais avoir le programme, je vais bien sûr, et je leur dis, je vous fais le coup du dromadaire, c'est-à-dire que je vous fais stocker une quantité de flotte la plus grande possible, très riche en sels minéraux, ce qu'il ne faut surtout pas faire le reste de l'année, parce que sinon on a des rétentions d'eau formidables, et justement, je vous provoque une rétention d'eau pour toutes les nuits, pour que toute la journée, votre eau s'écoule tout doucement, que vous, la plupart des gens, vous le constaterez si vous mangez chrono et si vous m'écoutez bien, vous vous apercevrez que vous n'avez envie de faire pipi que vraiment rarement, et que c'est vraiment une petite quantité, contrairement à ce qu'on fait d'habitude quand c'est une eau qui contient pas trop de sels minéraux, ce qui est bien, mais ce qui est bien 335 jours par an ne l'est pas bien les 30 jours qui restent.
Donc ces sels minéraux vont stocker l'eau, docteur Delabo.
Voilà, ils vont aider à empêcher, ils vont aider, le sel permet de retenir l'eau, c'est pour ça qu'on empêche, qu'on donne aux hypertendus, on leur dit ne buvez pas, ne mangez surtout pas de sel et ne buvez pas d'autres salés, c'est pour qu'ils puissent éliminer leur eau et que leur tension, qu'en fait que la pression artérielle, on appelle ça la tension mais c'est un vieux mot qu'on utilise toujours, c'est la pression artérielle, ne monte pas trop et ne risque pas de provoquer des dégâts.
Donc finalement, si je vous écoute, le repas le plus important à faire pendant le mois du Ramadan, c'est le repas du matin.
Oui, le plus, ils sont importants tous les deux. Il y a trois repas. Il y a un démarrage, on ne peut pas appeler ça un repas, c'est la rupture du jeûne, c'est le rituel du lait d'amande, c'est un fruit, c'est un jus de fruit, bien sûr. Le lait d'amande, c'est liquide, c'est déjà pas mal, mais on peut ajouter un jus de fruit, on peut ajouter de l'eau en pagaille, du thé, du café,
alors,
enfin tout ce qu'on voudra.
Traditionnellement, la Sunna dit qu'il faut rompre le jeûne avec des dates de
cours. Oui, bien sûr, voilà. Elles sont prévues.
Une ou trois.
Oui, même 4 si on veut, c'est pas vrai.
Non, c'est 1 ou 3.
C'est 3.
Ouais.
Ah bon, c'est 3. Si, c'est 3.
Bah, ensuite, une fois que les gens ont eu leur ration de sucré, ils doivent marquer un temps d'attente ou ils peuvent enchaîner le dîner derrière?
L'idéal, c'est d'enchaîner le dîner derrière parce que ça va permettre de garder un peu plus de temps entre le dîner et le repas du matin. Au dîner, ben on va enchaîner par. Alors, on a pris du sucré, mais on va enchaîner par du salé. On va enchaîner par un bouillon. Alors, ça peut être un bouillon de viande, ça peut être un bouillon de légumes, ça peut être un bouillon de bœuf ou un bouillon de poulet. Ça peut être tout ce qu'on voudra. C'est-à-dire beaucoup d'eau, une sensation d'apaisement, une sensation de satiété, ce qui signifie qu'on n'a plus très faim sur le coup, mais qui n'est que fugace et c'est volontaire. Donc, ça vous permettra, si vous avez pris cette eau, vous avez pris un petit morceau de poisson si vous voulez, mais que du poisson, n'allez pas manger de la viande le soir, parce que c'est trop tôt. Vous mangerez votre... Alors, vous allez dire, mais ma shorba. Mais patience, mes enfants, patience. La shorba, c'est le matin, avant la reprise du jeûne. La shorba ou la rira, c'est comme vous voulez, mais c'est le matin, avant la reprise du jeûne, de façon avec de la viande, avec du fromage, avec tout ce que je donne d'habitude pour le petit déjeuner et le déjeuner, vous le prenez au repas précédant la reprise du jeûne.
Donc, rupture du jeûne, donc le sucré.
Du sucré.
D'accord. Ensuite, un bouillon.
Oui, du salé léger.
Voilà, léger, donc ce ne sont pas les soupes traditionnelles comme...
Non, les soupes traditionnelles.
Ceci dit, harira, ça veut dire soupe et shorba pareil, donc ça veut dire qu'on peut faire une petite soupe de légumes.
Oui, mais ce sont des soupes épaisses.
Ah, oui ou pas?
En principe, là, c'est vraiment... Écoute, moi, j'ai fait des aïdes avec mon ami l'imam.
Ah oui, non. Alors, par exemple...
Sa shorba, tu mets la cuillère dedans et t'en beau.
C'est un très mauvais exemple. Il y a des shorbas blanches, par exemple, à base de veau ou de poulet, qui sont très légères, par exemple.
Oui, mais ça, c'est pas à faire pendant l'Ramadan. Pendant l'Ramadan, il faut des shorbas qui nourrissent énormément, justement. Alors, c'est bien d'en parler. Parce que ne faites pas des shorbas légères en pensant que ça va tenir. Vous n'allez jamais tenir le coup. Nous sommes dans la période la pire de toutes cette année. Comme l'année dernière.
Et comme l'année dernière,
à peu près.
On va dire au niveau des horaires.
Ça va commencer à s'arranger l'année prochaine. Mais cette année, comme l'année dernière, ce sont les périodes les plus difficiles. Donc, ne faites pas l'erreur de manger léger en vous disant « chouette, de toute façon, il va faire chaud ». Non. Qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, si vous ne mangez pas suffisamment solide, vous allez avoir une mauvaise journée, ça ne va pas être agréable, ça va être pénible. Et ce que je ne veux surtout pas, je ne veux pas que ce soit pénible, parce que ce n'est pas comme ça, à mon avis... Pour moi qui viens de faire le carême, si c'est trop pénible, ben c'est insupportable. J'ai passé 40 jours, c'est un petit peu dur. J'espère que vous avez pensé à moi tout comme je vais penser à vous.
Ah oui,
et vous parler pendant toute la période du Ramadan.
Docteur Delabo, donc le repas, un bouillon léger et du poisson. Ça c'est le premier repas.
C'est un petit peu de poisson, un poisson maigre de préférence. Hein.
D'accord. Donc après, les gens vont se coucher ou vont
aller à la mosquée pour faire les
prières de Tarawih.
Oui. Alors, aller à la mosquée pour faire les prières, c'est très bien, bien sûr, bien évidemment. Mais le problème, c'est la gestion de votre journée derrière. Où vous pouvez aller vous recoucher après le repas d'avant la rupture du jeûne. Vous pouvez aller vous recoucher et vous allez pouvoir dormir au moins 4 heures. Et ça va, vous pouvez passer votre nuit en prière, si vous voulez, au contraire, c'est même très bien, puisque derrière, vous allez pouvoir dormir. Mais n'oubliez pas, je le précise dans mon livre sur le Ramadan de l'été, qu'on doit avoir 8 heures de sommeil sur 24 heures. C'est facile.
Ah oui, sur 24 heures, oui.
Sur 24 heures. Ça peut être réparti par 2 heures, ou par 4 heures, ou par 3 heures, je m'en fiche, pourvu que le total fasse 8 heures. Parce que c'est l'idéal. Bon, le minimum, c'est 5 heures. Mais si vous faites ça, au bout de 30 jours, je vous garantis que vous n'allez pas être frais. Vous allez commencer, et vraiment, ça va être très pénible. Donc faites attention. L'idéal, si vous pouvez caler 8 heures, c'est ce que fait mon associé, qui dort, El Mouktar, il dort de midi, de 12 heures à 14 heures. Il dort vraiment, il dort complètement dans le noir, tranquille. Et puis, dans le courant de la soirée, avant la rupture, il va dormir 2 heures.
À quel moment est-ce qu'on mange les fruits, docteur Delabo ?
Au moment de la rupture, mais c'est pas les fruits. Si on mange trop de fruits au moment de la rupture, ça va être ennuyeux parce que on va mal stocker la flotte et on va stocker de l'eau, mais on va pas la retenir parce qu'il n'y a pas énormément de sels minéraux dans les fruits. Il y en a pas trop dans tout.
C'est vrai que pendant le mois du Ramadan, les gens consomment énormément de pastèques, notamment. et de fruits frais avec des jus.
Oui, parce que ça contient de l'eau, donc il se réhydrate comme ça. C'est pas idiot. Manger une part de pastèque à la rupture du jeûne ou un melon, j'y vois pas d'inconvénient. Le melon, c'est un peu trop tôt. Cette année,
c'est pas la saison.
Ça va être un petit peu tôt. Ça va être un peu tôt cette année. Hein. C'est plutôt juillet ou le melon et la pastèque.
Alors, ce repas du matin avant la reprise du jeûne, de quoi le composez-vous, docteur Delabo ?
Alors, de tout.
Ah, de tout.
Ah, de tout. Il faut y aller, il faut manger de tout. Il faut manger de la viande, il faut manger des féculents, il faut manger du fromage, il faut manger du pain. Alors, ça peut être des galettes, ça peut être, enfin, tous les plaisirs que vos épouses connaissent bien, messieurs, c'est-à-dire la préparation des repas. La galette, j'y vois pas d'inconvénient, mais par pitié, mesdames, mettez pas de sucre dedans, s'il vous plaît.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le moment. Tout ce que les gens font, c'est-à-dire le soir, vous le mettez le matin.
Exactement, est-ce qu'on met le matin, moi je le mets le soir.
Voilà, c'est-à-dire que finalement, le gros repas, vous le faites, voilà, le matin, au niveau du sahor, et les gens, à ce moment-là, doivent manger donc le fromage, la soupe, la viande,
oui.
Les féculents.
Oui.
Beaucoup se recouchent derrière, vous savez.
Oui, et c'est une bonne idée.
D'accord.
C'est une très bonne idée.
Pourquoi ?
Parce que
vous allez vous coucher sur la digestion.
Oui, donc vous n'allez pas digérer. Vous n'allez pratiquement pas digérer. Donc quand vous allez vous réveiller 3 ou 4 heures après, c'est là que vous allez commencer à digérer. C'est-à-dire que vous allez commencer à digérer à l'heure où vous déjeunez d'habitude. Donc vous allez retrouver, votre corps va garder un rythme qui va être un rythme extrêmement agréable pour lui, puisque j'ai essayé de faire en sorte que votre organisme ne souffre pas de changements brutaux, si vous voulez. En vous couchant et en dormant après le repas qui précède la reprise du jeûne, vous aidez votre organisme à garder ses provisions pendant au moins 3 ou 4 heures avant de les éliminer.
C'est vrai que si on dort sur un repas, on ne digère pas, ça freine le processus de digestion.
Voilà, c'est volontaire, hein. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas se goinfrer à la rupture et puis ne rien manger à la reprise. Parce que c'est là que vous êtes dans un état pitoyable au bout de 3 ou 4 jours ou 5 jours.
Bon, faire l'effort donc de se lever. Alors, certains ont l'habitude de faire un petit déjeuner. Vous savez, le matin, ils prennent du pain, des tartines.
Ben oui, bien sûr, c'est ce qu'on fait. Du pain, du fromage, de la viande. On additionne tout. C'est vous additionner votre déjeuner, votre petit déjeuner. Alors, je vais vous donner un conseil qui est extrêmement important pour éviter de rater son démarrage du ramadan. Parce qu'il y a un démarrage, il y a vraiment un démarrage spécifique. Si vous avez passé une journée absolument normale, que vous vous êtes couché à 11h du soir et que vous commencez le ramadan le lendemain, je peux vous garantir que ça va pas le faire. Le premier jour va être épouvantable et les autres risquent de pas être terribles non plus. Donc, pour éviter ce genre de pataquès, ce qui est dommage parce que c'est très facile, il suffit que la veille, vous vous leviez de très bonne heure, que vous mettez le réveil à 5h du matin, le plus tôt possible, et à 5h du matin, vous faites votre petit déjeuner normal, que vous faites d'habitude, comme je vous l'ai appris à tous et à toutes, ou à la plupart d'entre vous, le petit déjeuner, fromage, pain et huile d'olive sur le pain, en bonne quantité, surtout, vous ne privez pas, commencez pas à croire qu'il faut vous priver. Vous faites votre déjeuner, il va être plutôt vous déjeunez vers 11h ou au maximum 11h au lieu de déjeuner vers 13h comme on le fait d'habitude, ce qui va vous faire goûter vers 16h, 15-16h, et vous allez dîner vers 18-19h et vous allez vous coucher.
Donc ça c'est la veille du ramadan.
Et vous allez vous coucher après avoir pris uniquement une grande soupe et un petit poisson pour avoir très faim quand vous allez vous réveiller à 4h du matin parce que vous allez démarrer votre premier jour avec votre premier repas extrêmement nourrissant. Et là, mes enfants, vous êtes tirés d'affaire pour tout le mois. Il n'y a pas de problème.
Qu'est-ce qu'on boit, docteur Delabo, pendant le mois du ramadan pour s'hydrater au mieux ?
Alors, le thé est excellent, mais il ne faut pas le faire trop fort parce que ça fait taper le cœur. Et puis, attention, le thé trop fort, ça fait faire pipi. Alors, allez-y doucement. Il faut un thé qui ne soit pas trop... Il ne faut pas un thé noir, s'il vous plaît. Vous avez l'habitude de le boire très fort, je sais, mais je vous demande, pendant cette période du ramadan, de le boire orange, de ne l'infuser que 2 minutes. Ça suffit largement. L'infusez pas plus. Ne vous gavez pas non plus de café. Évitez le café pendant le ramadan, tout simplement parce que c'est diurétique. Non, mais c'est diurétique.
Ah, mais les gens, par exemple, ils sont privés de café toute la journée. Et c'est vrai que alors, souvent, le soir, ils ont tendance à se faire plaisir.
Alors un petit café à ce moment-là, si vous vraiment voulez prendre un café et que vous allez faire vos prières la nuit au lieu de dormir, bon, bah, prenez un café. Ça vous aidera très bien à rester vigilant pendant la nuit. Mais c'est le seul moment où vous avez intérêt à prendre un café.
Est-ce que c'est vous, docteur Delabo, qui m'avez dit un jour que le café allongé, c'était pire que le café très serré?
Alors, le café allongé, ça dépend. Ce qu'on appelle café allongé. Le café allongé, en prolongeant le passage de l'eau sur le café, c'est très mauvais, c'est pire parce que alors il y a énormément de pouvoir diurétique dedans. Le café allongé tel que on doit le faire, si on veut, c'est un café fort auquel on a rajouté de l'eau, mais surtout pas du re du café.
Ah oui, on refait pas couler la machine.
Non, faut pas faire couler la machine deux fois. Faut faire un café très serré et rajouter de l'eau. Vous enlevez la capsule si c'est une machine à capsule. Sinon, vous enlevez, vous mettez de l'eau très chaude pour rajouter, et c'est très bon.
Et qu'est-ce que vous conseillez comme eau après une journée sans boire?
Alors, c'est ça qui est amusant, c'est que contrairement à ce que je vous dis pour toute l'année, où je dis ne prenez pas des autres eaux minéralisées, là vous allez pouvoir vous gaver de San Pellegrino, Vichy, si vous avez une parce que très souvent il y a des erreurs d'estomac qui se produisent quand on est toute la journée, l'estomac n'a pas travaillé, donc un grand verre de Vichy, ça soulage l'estomac, et c'est très riche en sels minéraux, donc vous allez retenir de l'eau. Ça peut être de la San Pellegrino, ça peut être de la Badoit, ça peut être toutes les eaux pétillantes que vous voulez, bardées de sel, plus elles seront salées, plus ça me fera plaisir.
Sauf pour les hypertendus.
Évidemment, si vous avez une hypertension importante, là, il vaut mieux éviter. C'est d'ailleurs les hypertendus, le problème des hypertendus, c'est que s'ils sont sous diurétique, la période du ramadan peut leur être interdite. Hein. Et alors, je vous rassure, si vous êtes hypertendu de façon importante et que vous avez un traitement qui ne permette pas de faire votre ramadan l'été, vous pouvez très bien le faire l'hiver. C'est d'un point de vue médical, vous avez parfaitement le droit de décaler votre ramadan parce qu'en le faisant l'hiver, vous ne risquez pas d'avoir des accidents vasculaires.
Bien, à valider avec l'imam Abdelali. Docteur Delabo est avec nous. Si vous avez des questions à lui poser, le standard est à votre disposition. 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, le docteur Delabo. Docteur Delabo, vous serez avec nous pendant tout le mois du ramadan. Je rappelle que vous avez écrit un livre qui concerne la façon de s'alimenter pendant le mois du ramadan. C'est la chrononutrition du ramadan, pour ceux que ça intéresse. Hein.
Non, comme bien gérer le ramadan de l'été.
Parce que c'est l'été et que c'est vrai que c'est pas du tout la
c'est
même
particulier.
Chose, avec des amplitudes qui sont assez
impressionnantes,
assez longues, hein, donc qui peuvent aller jusqu'à 18 heures cette année. On l'a dit, docteur Delabo, c'est important de bien gérer son ramadan d'un point de vue alimentaire, parce que finalement, ça permet d'être en bonne santé et surtout de ne pas être fatigué.
Ah, ça permet d'être bien dans sa tête et bien dans sa peau. Ça permet de gérer son ramadan correctement, de pas sortir épuisé, de pas sortir en disant « oh là là, je recommencerai pas l'année prochaine, c'est trop fatigant », de ne pas risquer sa santé, de ne pas faire. Si, il y a des gens qui se découragent. Alors que je me souviens d'une dame qui m'a dit, moi je le fais plus parce que je supporte pas. Je lui ai appris à le faire et elle est revenue me voir. Moi après, et elle m'a remercié chaudement. En me disant, docteur, vous avez raison, je suis ravi. En plus, ça m'a fait un bien fou au point de vue intellectuel. Donc, elle était très contente.
Alors, Naïma est avec nous au 01 53 48 3000. Naïma, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, Naïma.
Bonjour, Naïma.
Tout d'abord, de me prendre à l'antenne. Alors, moi, j'avais une question, c'est qu'il va faire le vaccin Gardasil à ma fille qui a 12 ans. Et on entend pas mal de choses, en fait, sur le vaccin. Et je voulais avoir votre avis, en fait. Parce que la pédiatre, elle me le conseille. Mais voilà.
Vous savez, le méningocoque, c'est quand même vraiment une saleté et je vous dirai pas les séquelles que ça peut laisser, je veux pas vous faire trop peur, mais c'est épouvantable. Donc, croyez-moi, mes enfants et mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants, parce que j'ai une arrière-petite-fille, le monde est vacciné.
Oui, mais attendez, le vaccin Gardasil, c'est le vaccin contre le cancer de l'utérus, c'est ça?
Ah non, c'est pas le Gardasil, ça n'a rien à voir chez les enfants.
Qu'est-ce qu'elle veut faire?
Quel vaccin elle veut vous faire?
Oui, c'est ça, en fait. Si, tout à fait, contre le cancer de l'utérus.
Gardasil, c'est ça. J'ai bien compris.
Ah, pardon, excusez-moi, je croyais qu'on parlait du méningocoque.
Non,
le Gardasil, là, écoutez, très sincèrement, je ne peux pas me porter garant de ça parce que je suis d'une génération où ça n'existait pas. Et je ne peux donc pas vous dire oui c'est très bien ou non c'est très mal, j'en sais rien. En fait, d'accord. Malheureusement...
Vous avez au moins l'honnêteté de le dire, ça c'est bien. Voilà.
Oui, il faut pas mentir aux gens, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Je déteste les gens qui parlent de tout sans rien savoir. Donc, je ne peux pas vous donner une opinion tranchée. Ce qu'il faut, c'est regarder les études qui ont été faites. Vous avez maintenant la chance d'avoir Internet pour vous renseigner. Mais attention, n'allez pas sur des sites de rencontres de machins, de bazar, où les gens racontent n'importe quoi. Il faut aller regarder les travaux scientifiques. Il faut aller regarder les études scientifiques. Vous avez des travaux sur les études scientifiques quand vous allez... Mais n'allez pas dans le club de « j'y crois » ou « j'y crois pas », parce que ça, ça veut rien dire.
Alors, Naïma, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une émission, on va faire une émission sur ce vaccin-là, précisément, en fait. Hein.
D'accord, super.
Comme ça, ce sera ça. Elle a quel âge, votre petite fille ?
12 ans.
Elle a 12 ans.
Ah oui, c'est à l'adolescence hein, qu'il le conseille.
Ben bah, oui, parce que... C'est vrai qu'on voit de plus en plus, on a énormément, parce que dans ma vie, j'ai quand même vu énormément de pathologies du col, c'est surtout au niveau du col utérin que c'est dangereux, que ça peut être, et ça nécessite une surveillance de tous les instants, ça nécessite de faire des normalement, vous devriez être surveillé tous les mois, pratiquement, ou tous les, enfin, il faudrait faire une surveillance très, 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 très rapprochée. Ce qui est très énervant, ce qui est fatigant, ce qui et puis malheureusement, en général, ben on le fait pas parce que c'est barbant, c'est astreignant. Alors malheureusement, quand il y a une astreinte comme ça, ce qui se passe, c'est qu'on le fait pas, qu'on n'y pense plus, et qu'il peut se passer des années avant qu'on s'aperçoive qu'il faudrait peut-être le faire. Et quelquefois, malheureusement, ben, il est tard. Il est pas trop tard, mais il est tard.
Voilà, on fera une émission précisément avec Nadia El Bouga sur le sujet, Naïma, si vous voulez bien.
Oui, ce qu'il faudra voir, ce qu'il faudra voir, si vous voulez, c'est pourquoi le faire, comment, dans quelles conditions le faire, quelles sont les conditions de surveillance quand on le fait pas, parce que si on le fait pas, il faut une surveillance très rapprochée. Vous savez, c'est comme quand une femme qui n'est pas immunisée contre la toxoplasmose, vous savez très bien que toutes les 4 semaines, il faut lui faire un examen parce que sinon elle risque d'avoir une toxoplasmose et le bébé en aurait des conséquences redoutables. Ah oui, je parle des femmes enceintes, évidemment, excusez-moi. J'avais fait le raccourci.
Oui, mais j'avais bien compris, ouais.
Alors, c'est un peu pareil. Si on n'est pas vacciné, eh ben, faut faire une surveillance beaucoup plus rapprochée. D'accord. Mais c'est à voir. Et ça, j'attends avec impatience l'émission parce que ça va m'intéresser. Je l'écouterai aussi.
Et qui aura lieu? Vous savez pas quand aura lieu?
Non, on va le faire au début du mois de juin.
D'accord. Très bien.
Voilà. Après le mois du Ramadan, on fera. Alors parce que c'est une thématique. C'est vrai qu'il y a certains pays maintenant qui généralisent la vaccination aux gardes d'asile des adolescentes. Maintenant, c'est vrai que comme dit le docteur, il faut avoir des spécialistes et pouvoir effectivement avoir un peu de recul sur la question. Donc Naïma, comme on n'est pas spécialiste, on va en inviter.
D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre
accueil. Je vous en prie, Naïma.
Une très bonne journée à vous.
Hein. À vous aussi, Naïma.
Au revoir. Alors, docteur de labo, pendant le mois du Ramadan, les gens ont besoin de fraîcheur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de salades fraîcheurs et de petites salades. Alors vous êtes assez petite salade, alors, assez contre.
Une petite salade fraîcheur le soir avec le potage, pourquoi pas? Au contraire. Parce que comme ça ne nourrit pas du tout, 4 ou 5 heures après, vous aurez faim. Donc ça tombera bien, puisque plus vous aurez faim le matin, mieux ça vaudra.
C'est ça le secret. Hein.
Le secret, c'est ça. C'est de vous débrouiller pour que le matin, vous ayez faim. C'est pour ça que je vous ai proposé, vous m'avez entendu tout à l'heure, un jour d'avant, si vous voulez. Un jour d'avant, et c'est le jour d'avant qu'on va préparer correctement le début du Ramadan.
Imen, bienvenue.
Bonjour, Philippe.
Bonjour, Imen.
Docteur de labo.
Bonjour, Imen.
Merci. Moi, je voulais savoir un petit peu, à chaque début de Ramadan, j'ai les 2 jours ou les 3 jours des migraines.
Oui, parce que vous ne l'avez pas. Alors, parce que vous ne l'avez pas préparé justement. C'est pour éviter les migraines, éventuellement des migraines, et c'est fréquent, que je vous propose de préparer votre Ramadan la veille, de vous mettre dans les conditions, dans les conditions du Ramadan qui vont permettre. C'est parce que vous démarrez votre Ramadan d'emblée et vous avez une déshydratation aiguë le premier jour qui va se répéter les jours suivants. Et vous allez mettre plusieurs jours avant de récupérer votre quantité d'eau nécessaire et suffisante pour ne pas avoir de migraines. Parce que certaines migraines sont causées par de l'hypertension, il y a trop d'eau, mais la plupart des migraines sont causées à l'inverse par une hypotension et par justement une déshydratation. Donc pour éviter cette déshydratation, c'est pour ça que je vous fais préparer le Ramadan la veille en vous faisant déjeuner très tôt le matin pour pouvoir vous coucher très tôt le soir et pour pouvoir vous gaver d'eau et de sels minéraux pendant la nuit. Et vous n'aurez pas de migraine le lendemain.
D'accord, parce que j'ai essayé ce lundi, donc ouais, voilà, j'avais une migraine vraiment.
Vous avez jeûné,
surtout les débuts d'après-midi.
Vous avez jeûné lundi, c'est ça, Imane?
Si j'ai déjeuné le matin tous les jours à 5 heures.
Oui.
Moi, je prends toute l'année l'huile d'olive, le fromage,
oui.
Voilà, et un peu d'eau. Bon, un peu d'eau, un verre d'eau ou deux, et c'est tout.
Oui, mais un verre d'eau ou deux, c'est largement insuffisant. C'est un litre qu'il faut boire. Pendant la période du Ramadan, c'est un litre qu'il faut arriver à boire dans la matinée, enfin le matin avant la reprise du jeûne. Mais je vous rassure, vous allez vous y faire très vite et vous aurez besoin de ce litre. Et croyez-moi, vous le boirez sans problème.
D'accord. Et je peux prendre un Doliprane ou c'est pas nécessaire?
Oh bah, c'est pas souhaitable parce que le Doliprane, c'est pas gentil pour le foie. Faut pas prendre du Doliprane n'importe quand si vous avez pas.
Pour éviter un petit peu.
Faut faire en sorte de pas avoir mal à la tête. C'est plus malin que prendre un Doliprane.
Ouais.
Bah oui. Donc, buvez plus parce que le petit verre d'eau, c'est pas étonnant que vous ayez des maux de tête après. C'est pas suffisant. Hein.
C'est-à-dire que beaucoup de migraines sont dues à la déshydratation.
Oui, sont dues au fait qu'on boit pas suffisamment. Et qu'on boit des trucs, on boit des aliments qui vont gentiment faire une stagnation d'eau dans les tissus au lieu de rester dans les vaisseaux.
Voilà. Je vais suivre.
Mais Imane, est-ce que vos migraines passent au bout de 2 ou 3 jours ou pas en fait?
Bout de 3 jours, ouais.
Ouais.
Oui,
ouais.
C'est ça.
C'est le temps que l'organisme.
Dans l'ordre, hein.
Et oui, c'est ça.
Je sais pas si c'est peut-être un changement.
Donc, pour éviter cette accoutumance de l'organisme, en préparant votre ramadan la veille, en vous levant très tôt et en décalant la journée et en prenant au lever la quantité d'eau très importante qui va vous permettre de gérer, vous verrez, vous n'aurez plus de migraine de démarrage.
Ah, d'accord. Moi, je le fais quotidiennement. Je bois de l'eau. Après, je prends mon petit déjeuner. Mais un bon verre d'eau. Mais là, quand le ramadan, moi, ça me... Peut-être un petit peu ce stress aussi. Ça me stresse un petit peu. Pour les migraines, hein,
Il ne faut pas vous stresser. Il ne faut pas vous stresser. Ça
pour
peut très bien...
Pour ne pas avoir la migraine, c'est tout.
Oui, mais vous inquiétez pas.
Pour le ramadan, oui.
Vous inquiétez pas. Si vous préparez bien votre journée, comme je vous l'ai expliqué, si vous êtes bien organisé, ça va se passer dans des conditions idéales.
Ah ben d'accord. Merci.
Je vous en prie, Imane. C'est avec plaisir.
Belle journée à vous deux et au revoir.
Merci, Imane.
Au revoir,
Imane.
Merci, au revoir.
Voilà, 01 53 48 3000 si vous voulez poser vos questions au docteur Delavaux. Mais c'est vrai que les migraineux appréhendent toujours ces 3 premiers jours du mois de Ramadan. Parce qu'effectivement, le temps que l'organisme s'adapte, il y a ces migraines qui...
Ce sont des gens qui ne boivent pas beaucoup. Mm. T'as entendu qu'elles boivent un verre d'eau.
Oui, mais il y a des familles de migraineux. Il y a des gens qui sont naturellement migraineux.
Alors, je vais t'apprendre une nouvelle qui va te faire plaisir. La chrononutrition fait totalement disparaître les migraines et les crises de tétanie. Ce sont les deux choses qui disparaissent. C'est-à-dire la spasmophilie, ne s'exprime plus jamais et on n'a plus de migraines.
Hassen, bienvenue. Il est chez vous, Hassen. Il est à Rouen.
Oui, bonjour.
Ah, bonjour, Hassen.
Bonjour, docteur. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Hassen.
J'ai une petite question.
Oui.
J'ai une colopathie fonctionnelle. Qu'est-ce que vous me conseillez pendant le mois de Ramadan?
Colopathie fonctionnelle, docteur Delabourg.
Le colon irritable, bien.
Oui, ça change pas grand-chose. La seule différence, la seule chose qu'il faut que vous fassiez pour que votre colon soit pas trop irrité, c'est de manger les féculents, de pas manger trop de légumes, prendre des salades. Si vous prenez une salade au repas à la rupture du jeûne, prenez une salade à grandes feuilles, prenez pas des salades à petites feuilles. Ne prenez pas de crudités, mais prenez des légumes cuits, et l'idéal, c'est de les mixer. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Vous mixez vos féculents le matin, vous mixez vos légumes le soir. Mangez plutôt des féculents que de la semoule. Mangez plutôt des purées de pois, des purées de haricots, des purées de lentilles, etc., etc., au repas qui précède la reprise du jeûne.
Et au moment, une question, au moment des crises, qu'est-ce que vous me conseillez? Parce qu'en fait, 2 semaines, je n'arrive pas à dormir parfois, jusqu'à 3h du matin, 4h du matin.
Parce que vous avez des crises, c'est ça?
Ah oui, exactement, ouais. Je n'arrive pas à dormir.
Ouais. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Hassen pour les crises, docteur Delabo?
Les crises, d'abord savoir pourquoi viennent les crises, parce que c'est ça l'important, c'est pas conseiller pour les crises, c'est comment prévenir les crises. Qu'est-ce que vous mangez avant de vous coucher?
Ça dépend. Parfois, je mange les pâtes, parfois je mange une petite salade. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, parfois, il n'y a pas de relation à ce que j'ai mangé. Il y a le côté psychique, peut-être, qui a influence aussi.
Ah, vous pouvez avoir, et ça c'est le côlon irritable, c'est en fait, c'est, vous faites ce qu'on appelle une somatisation. C'est-à-dire que quand vous êtes soucieux, c'est votre intestin qui ramasse.
Oui. Bon,
y en a, ils perdent leurs cheveux. Il y en a d'autres, ils ont... ah ben, vous rigolez, mais c'est pas marrant du tout, parce que on voit des gens qui font des pelades, hein. Ils perdent des plaques entières de cheveux quand ils sont... puis c'est pas très beau. Vous pouvez aussi avoir des douleurs articulaires. Ah oui, mais j'ai une douleur dans l'épaule. J'ai été accidenté dans l'épaule droite. Quand je suis soucieux, mon épaule droite me fait mal. Je sais très bien que c'est dans ma tête que ça se passe. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand vous avez maîtrisé ça en vous disant « Bon, je sais que je somatise », déjà, ça diminue de moitié, ça se calme, parce que vous commandez à votre cerveau cognitif de ne pas vous embêter en vous faisant mal, si vous voulez. L'être humain, c'est vraiment bizarre, vous savez, par moments, le cerveau humain, il est vraiment compliqué. Hein.
Ah oui, c'est très 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 compliqué, surtout des maladies comme ça, alors parfois je ne dors pas, j'ai un ventre 4h du matin, 5h du matin, voilà. Et je n'ai pas trop mal, c'est ça le problème, j'ai pas trop mal. Je sais bien, j'ai mal au côlon.
Alors, ce que vous pourriez faire pour éviter de prendre des somnifères, parce que c'est jamais bien, mais surtout pendant le Ramadan, le faites pas, parce que ça va tout perturber. Mais en dehors de la période du Ramadan, vous pouvez prendre ce qu'on appelle du chronozène, c'est-à-dire de l'herbe de millepertuis. Vous prenez ça le soir, vous trouverez ce chronozène sur le site biochrono.net, vous en prenez un seul ou deux le soir, ou le mieux, en fin de journée, un soir, et vous dormirez beaucoup mieux. Et surtout, ça calmera votre tension intestinale.
Merci Hassen. Alors Malika est avec nous. Malika, bienvenue.
Merci Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour docteur Delabo.
Bonjour Malika.
C'est gentil, merci. J'écoute beaucoup vos émissions, elles sont formidables. J'en ai même parlé autour de moi, merci. Moi aussi, j'ai un petit souci. Je viens d'entendre la colopathie, c'est intéressant, j'ai tout noté. Il me reste maintenant, j'ai un problème grave d'estomac. Je ne sais vraiment pas comment faire et j'appréhende beaucoup l'arrivée du Ramadan. J'appréhende beaucoup parce que vraiment le soir dans des comas, c'est pas possible. Dès que je mange quelque chose, je rentre dans un coma, pas possible. Voilà.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour les aigreurs d'estomac, la boisson idéale, c'est tout simplement le Vichy.
Ah, d'accord.
Et l'idéal, c'est le Vichy Saint-Yor, car c'est celui qui contient le plus de, bicarbonate. Donc, c'est d'accord. Vraiment utile. Ça va vous soulager. À la rupture, vous commencez par un grand verre de Vichy Saint-Yor.
D'accord.
Et avant la reprise, pour terminer votre repas du matin, du petit matin, d'accord. Vous terminez par un grand verre de Vichy Saint-Yor.
Ah, ben, merci pour cette.
C'est tout bête, mais ça soulage bien.
Exactement. Juste un petit dernier truc, si vous
voulez,
puisque je vous ai eu, ça fait longtemps que je vous entends, je vous écoute sur la radio. Je voulais savoir aussi pourquoi je rentre comme ça dans le coma dès que je mange quelque chose. Je suis actuellement sous oméprazole. Souvent dans l'année, on me donne que ça, en fait, pour calmer mon estomac. Et je comprends pas pourquoi je rentre dans des comas comme ça. Je comprends pas.
Mais qu'est-ce que vous appelez des comas? Parce que
je dors beaucoup. Dès que je mange un truc, je dors tout de suite.
Ah oui, parce que là, vous m'avez fait peur. Malika tombe dans le coma dès qu'elle mange. Mais ça veut dire que dès que vous mangez, vous avez envie de dormir et vous vous écroulez, c'est ça?
Ah ben, grave. Même au travail, des fois, je sors du travail pour rien que dormir, ne serait-ce que 10 minutes et je me réveille difficilement et je rentre au travail, quoi. C'est incroyable.
C'est intéressant, ça. Vous ne faites pas des apnées du sommeil?
Oui, c'est ce que je pensais. Hein, justement. Oui.
Non, j'ai suivi le docteur pour ça. Ils n'ont pas trouvé quoi que ce soit. J'ai fait de grosses, mais dès que je mange, actuellement, je prends, pas actuellement, sur la longueur de l'année, je prends ce qu'on appelle des comprimés pour les petites bactéries. Là,
pour l'hélicobactère.
Voilà.
Vous prenez de la tétracycline.
Tétracycline, mais aussi des trucs homéopathiques aussi. Je prends beaucoup, mais ça change pas grand-chose, en fait. Je rentre vraiment dans un coma où je dors tout de suite, et puis après, je me réveille.
Alors, est-ce que ça vous le fait ça vous le fait midi et soir, ou ça vous le fait que le midi?
Ça me le fait surtout le midi.
Surtout le midi. Le midi, vous mangez quoi avec vous mangez de la viande, bien sûr. Vous mangez quoi avec?
Non, je mange pas de la viande. Et depuis que je vous ai entendu parler comme ça, j'ai beaucoup, beaucoup diminué, beaucoup de choses. Voilà, même le fromage que je mange le soir, j'ai supprimé pour le manger, comme vous le dites, le matin.
Le matin. Et qu'est-ce que vous mangez avec la viande le midi?
Je ne mange pas de viande, moi, à midi. Rarement où je mange.
Vous mangez quoi?
je mange un bout de pain avec des tomates à l'intérieur. Surtout, peut-être c'est le pain, je ne sais pas.
Alors,
ça, je mange beaucoup de pain.
Alors, si vous faites l'erreur, il faut surtout manger de la viande et très peu de féculents. Vous faites l'erreur de faire l'inverse. Vraisemblablement, d'accord, il y a une chose qui peut se passer. Vous faites peut-être ce qu'on appelle un syndrome de la brasserie.
Ah, c'est quoi le syndrome de la brasserie?
C'est très curieux. Le syndrome de la brasserie, c'est quand on mange des féculents, et je pense que c'est ce qui lui arrive, vous allez être horrifié, mais quand vous mangez des féculents, votre estomac le transforme en alcool.
Et?
Les pâtes. Eh ben, ça, vous êtes dans un état, et alors quand elle dit ça me met dans un état comateux, ben, c'est pas faux.
Vous tombez, comme une douche.
Elle est en état d'ébriété, tout simplement.
Bon, Malika, merci.
Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'ils n'aient pas fait le diagnostic, parce que c'est en Amérique qu'on a fait le diagnostic de ça. Cessez complètement de manger, surtout ne mangez pas de pâtes au déjeuner du midi.
Bien, vous retrouvez le docteur Delaboue sur la chaîne YouTube de Beurre FM et également en podcast beurrefm.net.
C'est le problème de Malika, et il peut être résolu très facilement. Non, mais j'insiste, Philippe, parce que tu ne te rends pas compte ce que c'est que de roupiller dès que tu as fini de manger. Le problème de Malika, il est simple à résoudre. On arrête les pâtes, on arrête tout ce qui est céréales complètement, parce que le pain, c'est pareil. On arrête les céréales de façon à ce que l'estomac ne fasse pas le syndrome de la brasserie.
Bien, docteur Delaboue, mercredi, merci de nous avoir écoutés. Et demain, c'est jeudi, c'est l'imam Abdelali qui est là.